Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et alors, cette semaine, il y a une particularité, mais qui rend cette émission encore plus belle, et Dieu sait qu'elle fait partie de celles que j'aime le plus faire sur cette antenne, c'est que c'est une émission en direct de Jérusalem. Et nous sommes avec Rav Guir qui est à Paris, mais qui va introduire notre conversation de ce soir et notre réflexion à l'occasion de cette belle émission qui s'appelle Kabbalat Shabbat. Rav Guir, bonsoir et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Guir, alors bon, on le sait, les parachiotes, donc une paracha, c'est ce passage qu'on lit dans nos communautés chaque semaine, sont toujours liés au contexte. Il y a plein de raisons qui expliquent ça, c'est toujours lié aux événements. Et là, on est avant Rosh Hashanah, personne ne peut l'ignorer. Et vous voulez, tout en le liant à notre texte de cette semaine, Nitzavim Vayeler, nous inviter à la réflexion sur la Teshuvah.
Tout à fait, la Teshuvah, c'est l'actualité, parce que c'est une mitzvah écrite dans la paracha de Nitzavim, et également parce que c'est la période qui précède Rosh Hashanah, le mois d'Elul, propice à la Teshuvah, ou même c'est une obligation dans cette période-là, on va pas bientôt commencer la Seret Yom Teshuvah et 10 jours de repentance. Donc c'est véritablement le moment de réfléchir à la façon dont la Teshuvah fonctionne. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que la Teshuvah, c'est quand même un grand questionnement, c'est quelque chose de très difficile à appréhender. On a fait une Avera, on a transgressé une Avera, et puis on est pardonné parce qu'on a un regret. A priori, on ne voit pas trop comment on pourrait effacer un acte par un regret. Alors, c'est important de regretter, tout le monde comprend que de présenter ses excuses lorsqu'on a fait une faute, c'est tout à fait légitime, et plus que légitime, c'est nécessaire. Mais en quoi on peut imaginer que Akadosh Baruch Hu, Dieu va accepter ce repentir et effacer, parce qu'il s'agit de ça, d'effacer la faute comme si elle n'avait jamais existé. Alors, nos sages nous disent que d'abord, c'est l'effet de rachamim, la miséricorde. Mais les mots que je voudrais ici commenter sont ceux de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans Mesilat Yesharim, Akirat Haratzon, qui Akirat Amaaseh. La Torah considère que déraciner sa volonté, c'est comme déraciner l'action. Alors, j'ai traduit littéralement, je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Je vais prendre un exemple que peut-être parle à certains d'entre nous. Une personne qui n'était pas Shomeret Shabbat, qui ne respectait pas Shabbat pendant donc des années et des années. Et puis un jour, elle décide de devenir Shomeret Shabbat, de garder le Shabbat, de respecter le Shabbat. Et puis les années passent, et cette personne s'est tellement habituée au Shabbat qu'elle fait partie de lui, et il lui est très difficile, il serait même presque impossible de le transgresser le Shabbat, tellement il fait partie de sa vie, de son quotidien. Si je lui parle de la période qui précède, c'est-à-dire la période où il n'était pas Shomer Shabbat, il va dire, mais attendez, mais c'est plus du tout moi. J'étais effectivement je ne respectais pas le Shabbat, mais aujourd'hui, ça fait tellement partie de moi-même que vous me forcez, je n'arriverai pas à transgresser le Shabbat. Mon ratson, ma volonté, c'est de faire Shabbat. Surtout pas de le transgresser. Et je pense que beaucoup se retrouveront dans cette image par rapport au Shabbat, où véritablement on voit des gens comprendre et goûter aux délices du Shabbat et véritablement considérer ceux qui ne le font pas, qui passent vraiment à côté d'un trésor. Et donc, finalement, Akirat Ratzon ka Akirat Maaseh, c'est de dire que tout acte, même de Avera, doit être, entre guillemets, alimenté par une volonté. Prenons un exemple très concret pour que les choses soient plus claires. Si par exemple, j'ai dit du Lashon Hara, j'ai dit des choses négatives, de la médisance. Est-ce que si je dis aujourd'hui, je regrette, effectivement je regrette, est-ce que je peux considérer que je suis tellement, tellement dans un regret sincère que ça ne m'arrivera plus jamais? C'est très difficile à imaginer, malheureusement, nous sommes dans une société où il est très très difficile de se préserver de cette faute, mais c'est tout à fait possible, hein. Mais peu de gens sont au niveau où ils peuvent se dire totalement étrangers à cet average. J'en parle aujourd'hui parce que le 24 Elul, c'était l'anniversaire de la disparition du Chafetz Chaim, qui lui faisait extrêmement attention à cette mitzvah, qui a écrit un livre sur le respect de la langue, du langage. Et donc finalement, ce que je veux dire, c'est que de dire qu'il y a une akirat raton, c'est-à-dire le déracinement total de la volonté de dire des choses négatives sur autrui, donc de la médisance, c'est difficile à entendre, à imaginer. Pourtant, à ce que Hachem veut nous faire ce jour-là, c'est nous éloigner totalement de la Avera, déjà en termes de ratson, de volonté. Et Hachem dit que ce jour-là, le jour de, enfin, ces jours-là jusqu'à Yom Kippour inclus évidemment, il va considérer qu'un acte est relié profondément à son ratson, à la volonté qui est derrière cet acte. Et si la volonté de celui qui a fait la vera a changé et qu'il est véritablement dans un autre état d'esprit, on peut considérer que que l'acte n'a plus sa vitalité, sa force et il disparaît. Je vais prendre une image pour que ce soit plus clair. Vous avez un arbre avec ses racines. Quelqu'un va couper les racines. Alors l'arbre, vous le voyez, a priori, il est encore là, frais et plein d'énergie. Finalement, on sait qu'au fur et à mesure, il va s'assécher, il va mourir. Mais pour l'instant, on ne le voit pas encore. Ainsi, la Avera, lorsqu'on coupe les racines, la racine, c'est la volonté de le lien profond qui me relie entre l'acte passé et ma volonté d'aujourd'hui, et c'est-à-dire mon intérêt aujourd'hui encore pour cette Avera. Lorsque je coupe ce lien ou je change totalement d'état d'esprit, eh bien, tout simplement, la Avera passée va finir par s'assécher, disparaître, parce qu'il n'y a plus derrière une personne qui tient. La même façon que je pense que quelqu'un qui est Shomer Shabbat aujourd'hui, lorsqu'on lui parle de son passé de non-Shomer Shabbat, il ne se considère absolument pas le même, il a totalement changé, il considère que c'est un autre homme. Ainsi, le jour de Rosh Hashanah, de Kippour, enfin, pendant les Aseret Yom HaTshuva, notre travail à nous, c'est de prendre une dimension et de changer d'envie dans nos vies, d'essayer de prendre de la hauteur et de se dire, j'aimerais être différent aujourd'hui et avoir une autre ambition. On peut par exemple donner une image encore. Vous avez, je vais raconter une sous la forme d'une histoire, mais en fait évidemment c'est une parabole, une personne qui se saoulait, qui était ivre très fréquemment, c'est un monsieur qui a été licencié, que sa femme l'a quitté, il est sans le sou, son programme de la journée, c'est de se saouler le matin, le midi et le soir. Donc il est ivre à peu près 90% du temps. Une fois, il y a quelqu'un qui passe près de ce pub et il le voit comme ça dans cet état, il le prend avec lui, il le prend, il le rend le visage humain, c'est-à-dire il le dessoule, il l'habille, il le nettoie, il le lave, bref, il lui redonne un visage humain convenable. Et il lui dit, voilà, je t'ai sauvé de cette situation catastrophique parce que j'ai un but. Je veux que tu sois faire partie de la garde à Buckingham Palace, celle évidemment, la relève de la reine, enfin à l'époque c'était la reine, aujourd'hui c'est le roi, donc de la reine d'Angleterre, le roi d'Angleterre. Il y a, vous le savez tous, devant Buckingham Palace, une garde royale avec un habit très, des habits particulièrement de très beaux habits. Et j'ai décidé que, te voyant, tu as le physique, tu as le physique. Évidemment, tu étais dans une situation absolument horrible, mais tu as le physique pour faire partie de cette garde. Donc, il le soigne, il lui apprend entre guillemets, le métier, entre guillemets, et au fur et à mesure, il apprend, il devient donc justement un de ces membres de cette garde royale. Il a complètement changé. Lui, son aspiration à l'époque, elle était de boire du vin, et là maintenant, il est devant le roi, devant la reine, ou devant le roi aujourd'hui. Et il est en train de faire le tour de garde et d'honorer le roi d'Angleterre. Alors, les Havdil, il faudrait que nous comprenions qu'à Rosh Hashanah, Hachem nous appelle et nous dit, voilà, vous aviez comme aspiration des choses, on va dire, très matérialistes, vous n'avez pas vraiment d'ambition spirituelle. Mais là, aujourd'hui, je vous appelle pour être ma garde royale, ma garde rapprochée. Vous allez me servir. Il faut que ce jour-là, on justifie ce changement de statut par un changement d'aspiration. Et si on a vraiment un changement d'aspiration et notre but, c'est de servir notre créateur et d'éviter au maximum notre oubli, l'oubli que nous avons au quotidien dans le monde matériel qui nous attire tant, eh bien, on aura justement changé de ratson, de volonté, et on sera dans les premiers jours de la Teshuvah, puisque vous savez très bien que le premier jour de Rosh Hashanah et le deuxième jour également, ce ne sont pas des jours où on parle des fautes. On ne parle pas de vidouille, on ne cite pas nos fautes, mais par contre, on est au garde à vous devant le roi des rois qui se manifeste pendant ces deux journées et qui se rapproche de notre cœur et que l'on doit accueillir. Si on arrive à montrer que nous avons envie d'être cette garde rapprochée, eh bien, on effacera notre passé, puisqu'il n'y a plus de volonté de se livrer à ces avérotes. Au contraire, la volonté d'être à la hauteur de cette visite du roi des rois et dans laquelle, justement, on va se mettre au garde à vous. Et donc, même si pendant 48 heures et que 48 heures, on est au garde à vous, c'est déjà énorme pour nous lancer dans la Teshuvah des 10 jours de pénitence qui nous attendent. Voilà un petit peu le message de Teshuvah que je voulais faire. C'est tout simplement comprendre que nos aspirations doivent changer dans ces quelques jours qui nous séparent de Neïla de Kippour et où on doit véritablement faire une introspection, mais dans laquelle, surtout, nous devons comprendre qu'un acte qui a été fait ne prend sa source et sa force qu'à travers une volonté renouvelée et un intérêt renouvelé pour cette faute. Donc je prends l'exemple de cet ancien soulard qui était cet ancien poivreau et qui est devenu le proche de la reine, du roi. Eh bien, tout simplement, toute sa vie a basculé. Il n'a plus du tout envie de se retrouver dans un pub, il a envie de se retrouver devant le roi. Ben, c'est exactement ce que nous devons ressentir. C'est une image assez triviale, mais qui devra nous faire comprendre l'enjeu de ce grand rendez-vous.
Rav Gué, c'est vrai d'ailleurs, et surtout, je me permets de vous relancer, comme on dit journalistiquement parlant, préciser que après, ça devient léger. Par exemple, moi, je vois par exemple, manger kasher, on ne les regarde plus, les restaurants. Faire Shabbat, on ne se pose même pas la question d'aller. Ça devient quelque chose de très léger. Je pense que c'est important aussi de le souligner. Un chômeur Shabbat n'a pas de mal à se dire je ne vais pas au cinéma. C'est Shabbat, il n'y va pas. Et d'ailleurs, vous qui êtes un enseignant, un directeur d'école, il y a un très beau principe, c'est celui du c'est pas kasher. Les enfants, ils discutent de tout. Ils cherchent toujours les limites. Et c'est très intéressant de noter que dans les familles juives, il y a un truc où ils ne discutent pas. C'est quand tu dis, mais non, mais c'est pas kasher. Et c'est fini. Il sait qu'il ne peut pas le manger. Ben, il laisse tomber, il veut autre chose. Qu'est-ce que vous avez envie de me répondre?
Non, effectivement, la kashrout aussi fait partie évidemment, on a quelques années, ou bien, bon, les enfants, ils sont nés dedans. Même leurs parents, même s'ils ont changé d'attitude, pour eux, c'est devenu quelque chose d'impossible, de dégoûtant même, si on leur présente quelque chose de non kasher. Parce que c'est tellement devenu une partie de nous-mêmes que c'est une évidence et que on n'en a même plus envie. C'est-à-dire, lorsqu'on voit, par exemple, un sandwich jambon beurre, qui sont les plus vendus en France, ça ne nous donne pas envie de l'acheter. On n'a pas envie de l'acheter. Et même, on a un sentiment de révulsion. Vous savez, le but, vous savez de quoi, d'un Rosh Hashanah, d'un Kippour, de ces jours-là, c'est d'élargir au maximum ce champ. Au lieu de réduire ça à la kashrout, à Shabbat et à certaines mitzvot, que ce soit le cas pour toutes les avérotes de la Torah. C'est pour ça que j'ai parlé de la médisance, c'est malheureusement quelque chose auquel qu'on est tous confrontés. C'est pas facile, on devrait avoir du mal à entendre du mal d'un juif. De n'importe quel juif, personne, et en passant d'un juif, c'est-à-dire de ne pas d'avoir la difficulté d'écouter du mal d'un juif. Si on arrivait déjà à cela, ce serait un très très grand progrès pour la redoute, l'unité, on parle de l'unité du peuple juif, et c'est vrai que ça devrait nous faire souffrir, ça devrait être pénible pour nous d'entendre du mal d'un autre. Magnifique. Et ça, véritablement, il y a beaucoup de travail encore à faire.
On va essayer. Et d'ailleurs, le Baal HaTanya dit, une fois que tu as fait tout ce processus, il dit, mais après, il faut aussi rétablir. Alors, mets un peu de tzedaka. C'est un moyen de rétablir la relation avec Dieu. Mets de la tzedaka, donne à quelqu'un. Donne pas à Dieu, d'ailleurs, c'est bizarre, parce qu'on pourrait dire, alors donne à Dieu. Non, 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 donne à un pauvre à côté de toi. Fais de la tzedaka, ça rétablit les choses. Rav Gué, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
On peut se dire déjà Shana Tova, on en profite.
Shana Tova.
Shana Tova. Merci Rav. Je regarde Nitzavim.
Avec plaisir.
Je regarde Nitzavim et avec grand plaisir.
On en reparle la prochaine fois.
Et oui, le mardi justement. Avec grand plaisir. Bismillah Rabba.
Ok.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
continuer notre belle émission en direct de Jérusalem et nous sommes en ligne avec un habitant de la ville, avec Rav Mordechai Biton, un habitant de Ramoth précisément. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, alors c'est à moi de vous dire Baruch Haba cette fois-ci.
Quel plaisir.
Bienvenue. Bienvenue en Terre Sainte.
À la maison.
Que votre séjour soit profitable, mon cher ami.
Eh bien écoutez, merci, c'est une bonne idée de venir à la maison toujours, bien sûr.
Ouais, tout à fait, bien
Rav Mordechai, vous voulez, concernant notre paracha, le lier évidemment à la fête qui arrive et donc à l'idée de Teshuvah, mais aussi à Teshuvah dans notre contexte à nous. On ne va pas parler forcément d'actualité, mais dans notre vie d'aujourd'hui qui, bien sûr, depuis le 7 octobre, est très particulière.
Ah oui, effectivement. Parashat Nitzavim Vayeler, c'est une parasha qu'on lit toujours avant Rosh Hashanah. Et ce qui est intéressant et qu'il faut rappeler, c'est
la tradition
qui nous est rappelée par le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna nous rappelle que chaque parasha du livre, chaque section hebdomadaire du livre de Devarim correspond à un siècle du 6e millénaire. C'est-à-dire à partir de 5000, 5100, 5002, 5003, 5004, nous on est dans 5784. On est dans le 8e siècle, donc du 6e millénaire en fait, 5784. Et il nous dit, le Gaon, que chacune des parachas du Sefer Devarim correspond à un siècle donc de ce 6e millénaire. Et nous, actuellement, on est dans la paracha Nitzavim Vayeler. Notre siècle, c'est le siècle de la paracha Nitzavim Vayeler. Et donc, nous dit le Gaon de Vilna, nous avons une tradition ancienne qui nous apprend qu'il y a des remazim, il y a des allusions à ce qui va se passer dans ce siècle de marquant. Il y a des allusions donc dans la paracha. Et dans la paracha Nitzavim Vayeler, il y a une allusion à un fait majeur. Depuis la guerre de Kippour, ça fait maintenant une cinquantaine d'années, des centaines de milliers de Juifs ont fait Teshuvah. Et on le voit encore aujourd'hui, c'est de manière très massive que tous les sites de diffusion de Torah dans toutes les langues, parce qu'aujourd'hui, finalement, toutes les langues sont couvertes, sont suivies par des centaines de milliers de gens qui écoutent des cours. Regardez Torah Box, qui a 150 000 abonnés à sa chaîne YouTube, Idabrout, qui génère un suivi de plusieurs millions de personnes, Echa Torah chez les Anglais, chez les Espagnols, etc. Alors, dans Parashat Nitzavim, il est dit la chose suivante, au chapitre 30, « Vayak yavou alecha koladvarim alev » Voilà, toutes ces choses dont je t'ai parlé maintenant, c'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse au Bnei Israël, la bracha, la klal, la bénédiction, la malédiction, eh bien, tout ça va arriver. Qu'est-ce qui va se passer ?« Vayashevota el levavecha bechol agoyim » Tu feras tshuva au milieu des nations dans lesquelles je t'aurai repoussé. Shama, là-bas. Et effectivement, à la fois au milieu des nations du monde, on voit bien, on a eu le Rav Citruc en son temps, les séminaires en France, tous les séminaires de Teshuvah, une génération entière de gens dans les années 80-90, et ça continue encore aujourd'hui, qui font Teshuvah. Et la Torah continue, « Veshafta d'Hashem Lekra, tu reviendras jusqu'à l'Éternel, jusqu'à Hashem, tu écouteras sa voix, comme je te l'ordonne aujourd'hui, toi, tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. » C'est extraordinaire. Des milliers de gens aujourd'hui se retournent vers la Torah de tout leur cœur, de toute leur âme, et commence à pratiquer la Torah. Veshav Hashem Elokecha. Alors là, il y a autre chose qui est prophétisée également, qui est un fait marquant.
Bah, excusez-moi de vous interrompre, mais il y a aussi l'idée qu'on ait des millions à retourner en Israël.
J'y arrive. Ah. C'est le pasuk suivant. C'est le verset suivant.
Parce que je suis impatient, c'est pour ça.
C'est exactement. Hashem te fera revenir. Pasuk bête ici. Hashem te fera revenir. Fera revenir tes exilés. De tous les endroits où il t'aura exilé, c'est le verset 3. Partout où il t'aura dispersé, Hachem te fera venir. Et si tu auras été repoussé aux confins des cieux, eh bien de là-bas, Hachem ira te chercher. Et il t'amènera sur la terre dont tes pères avaient hérité, et tu en hériteras. Et là-bas, Veitifra, il te fera du bien, Virbecha, Mavotecha, il te multipliera encore plus que tes pères. Alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là en Eretz Israël, où il y a eu un mouvement de Teshuvah extraordinaire? Ou mal Hachem et l'okéchat et Hachem, il va circoncire ton cœur, c'est-à-dire qu'il va te prédisposer à écouter sa parole, d'accord, toi et ta descendance, pour aimer Hachem, etc. Et alors là, il y a un passouk qui vient derrière qui dit Vadat Hachem et l'okéchat, et toutes les malédictions dont j'ai parlé ici, elles vont tomber sur tes ennemis. Ceux qui t'ont poursuivi pendant des années, eux seront poursuivis par ces malédictions, toi tu ne seras pas poursuivi par ces malédictions. On voit bien qu'un certain nombre de guerres se sont déclenchées contre l'Occident qui nous a poursuivis pendant des années. mais également que des nations se sont affrontées à l'époque de la guerre avec l'Irak. Et on voit bien que l'Occident lui-même est confronté à la montée de l'islam, à des montées de guerre et tout, etc. Comme si en quelque sorte, maintenant, il y avait une autre répartition. Israël est toujours visé, mais d'autres nations également sont visées. Ve'otirecha Hashem Elokecha bechol maaseh yadecha b'ifri vitnecha. Alors là, Hashem va te bénir. Hein. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre sur ta terre, d'accord, Hashem va te donner la bénédiction. Pourquoi ? Parce que tu écouteras la voix d'Hashem. Alors c'est extraordinaire parce que ça va très très bien avec ce que dit le Gaon de Vilna. Il y a ici une prophétie qui est extrêmement claire, qui est la Torah elle-même. Ça, c'est pas le Zohar, la mystique juive, ou la Gemara, ou le Midrash. C'est la Torah elle-même qui vient et qui nous dit « Sache qu'il y a une époque de teshuva et de retour en Eretz Israël. » Et ça, ça pose une question, vous voyez qu'il y a une question extraordinaire, une question d'actualité. On parle souvent de l'aliyah des Juifs de France. Et si vous regardez bien les choses, vous verrez que très souvent, les gens font teshuva ou se renforcent sur le plan spirituel. En tout cas, ils renforcent leur identité en passant par un chemin qui est un chemin de spiritualité. Et après, ils éprouvent immanquablement le besoin de se poser la question de leur présence en France. Alors, ça prend souvent la forme d'un débat sur la laïcité, etc. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'il y a un réveil spirituel et que ce réveil spirituel, pour les Juifs, veut souvent dire monter en Eretz Israël. Et ça, c'est un fait qui est un fait marquant parce que c'est un fait qui concerne des milliers de gens. Alors, c'est entre autres la thématique qu'on trouve dans Parashat Nitzavim Vayeler, mais évidemment, on trouve dans cette paracha également la problématique de la thème Nitzavim Ayom. Vous êtes maintenant tous à égalité, vous vous tenez devant Dieu pour le jour du jugement. Là aussi, cette parashat Nitzavim contient une allusion à l'actualité cette fois-ci des fêtes, où on nous dit « Maintenant, vous allez être jugés. Tous, vous vous tenez devant Dieu à égalité le jour du jugement. » Il faut rappeler ici un principe qui est un principe fondamental du jour de Rosh Hashanah. On appelle les 10 jours qui vont donc du début de Rosh Hashanah à ce qui pour les 10 jours de Teshuvah, les 10 jours terribles. En fait, ces 10 jours sont séparés en trois types de journées. Il y a Yom Kippour qui est le couronnement. Il y a les 2 jours de Rosh Hashanah qui sont le début, et il y a les 7 jours au milieu qui sont 7 jours de Teshuvah. Pendant ces 7 jours, on peut à la fois réparer ce qu'on a fait durant les 7 jours de la semaine de l'année précédente et se donner de la force pour les 7 jours des semaines des années précédentes, de l'année qui va venir. Mais pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, il y a une espèce de reset pendant lesquels on ne fait même pas de vidouille, on ne va même pas parler de nos fautes. L'idée est simplement de dire qu'Hachem est roi, de reconnaître la royauté d'Hachem. Et c'est à ce sujet-là qu'il a été dit que lorsqu'à un moment donné, Ishmaël va être jugé, vous savez qu'il y a un épisode où Agar et Ishmaël sont dans le désert et sont livrés à eux-mêmes, et là, Ishmaël est en danger. Et le Midrash nous enseigne que les anges sont venus et ont dit à Dieu, tu vas sauver cet homme qui va avoir une descendance, qui va persécuter tes enfants, qui va faire du mal à tes enfants, et notamment qui va chercher à les assoiffer lorsqu'ils partent en exil sur la route de l'exil de Babylonie. Et là, Dieu répond, moi je juge, Be'asher Usham, je juge tel qu'il est là maintenant. Maintenant, il est tzadik. Ce que ses enfants vont faire, c'est une autre affaire. Et ça, c'est la règle d'or de Rosh Hashanah. Quelqu'un qui a Rosh Hashanah prend sur lui des résolutions et va s'ancrer dans la force de cette journée, qui est de reconnaître la royauté d'Hachem et qui est de donner à Hachem toute sa place dans sa vie, cette personne-là bénéficie d'un jugement qui est un jugement favorable. Autre point important, nos sages nous disent qu'une des manières d'avoir un jugement favorable et de bénéficier d'une force pendant ce jour-là, c'est de prendre sur soi, de donner au tzibour, de donner au public, de faire des choses pour le public, d'être quelqu'un qui pense au public, qui pense aux autres. C'est une des grandes forces de cette journée. Voilà ce qu'on retrouve dans Parashat Nitzavim et Vayeler, et qui concerne à la fois, donc, comme on l'a dit, l'actualité de la fête, mais en même temps notre actualité, notre siècle. Quoi.
Shabbat Shalom. Magnifique, Shabbat Shalom. Et c'est vrai que, bon, moi, je parle de moi, je ne sais pas si c'est très intéressant. Il ne faut pas prendre sur soi des grands trucs parce que tu sais que tu ne les prendras pas. Mais comme vous dites, j'avais déjà entendu peut-être même de vous, d'ailleurs. En fait, le jugement du Rosh Hashanah, il est comme t'es ce jour-là. C'est à quel niveau t'es arrivé ce jour-là? Et je voudrais vous faire partager, donc c'est vrai qu'il ne faut pas inventer, mais il ne faut pas avoir peur de dire non, je me lance, je vais faire ci, parce que c'est ce jour-là qui est jugé. Mais je ne suis pas rave, c'est vous qui savez, je vous parle sous votre contrôle. Quand moi j'étais étudiant à Tel Aviv, vous allez vous souvenir de ça, vous allez dire ah oui. Quand on était dans le bus, on écoutait les Hadashot. Inea Hadashot, Mipi, Kopi Barkai. Tut, tut, tut. Mais je vous promets que c'est vrai, Mordechai, puisque nous sommes dans cette belle ville de Jérusalem. J'étais dans le bus et c'était toujours le Nahag. On disait Nahag, Hadashot. Toujours le chauffeur qui mettait l'information pour tout le monde et tout le monde se taisait. Mais je vous promets que c'est vrai. Le chauffeur, on lui a demandé de mettre plus fort parce qu'il écoutait un cours de halakhot. Il écoutait un cours sur les bénédictions dans le bus et tout le monde se tait dans le bus parce qu'on veut écouter le cours. Elle n'est pas extraordinaire celle-là.
Très beau, très beau,
Elle
très
est
beau.
belle, hein?
Très beau. Oui, bien sûr.
Le monde a
Tout bouge
changé.
ici, tout bouge. Le monde a changé, le monde a changé. Ça ne veut
Rav
pas dire que les
Mordechai.
gens ne s'intéressent pas aux Hadashot, mais ils s'intéressent aussi aux Chidushim, aux nouveautés de la Torah.
Ouais.
Ça va,
Ça change, hein?
ça peut aussi rouler les bus.
Rav Mordechai Biton, merci. Et Shabbat Shalom à Jérusalem.
Shabbat Shalom.
שלום לבוי נבוי אם השם לא ישמור יהיה שוב שוקת שוי מי אם השם לא ינה בייס שלום לבוי נבוי אם השם לא ישמור יהיה שוב שוקת שוי מי